Alors, nous allons essayer, effectivement, c'est une entreprise assez ambitieuse, essayer de définir la tradition dans son opposition à la modernité et la modernité dans son opposition à la tradition. Naturellement, il s'agit de concepts qui recouvrent une réalité énorme, qui recouvrent une réalité qui, à la fois, porte sur des siècles. Dans le cas de la tradition particulièrement, mais déjà dans le cas de la modernité aussi, et qui recouvre des phénomènes qui sont d'ordre presque planétaire. Alors, il est évidemment hors de question d'entrer dans des détails compliqués concernant les idées représentatives de la tradition ou les idées représentatives de la modernité. Ce que je voudrais faire, c'est plutôt essayer de définir ce qu'on pourrait considérer comme étant l'inspiration de la tradition et l'inspiration ou la grande idée de la modernité. Je crois que c'est une tâche qui n'est pas impossible. Il me semble que au travers de la diversité des faits et gestes, des idées, des doctrines qui sont représentatives de l'un comme de l'autre, de la tradition comme de la modernité, je crois que au travers de cette extrême diversité, on peut retrouver dans les deux cas une unité d'inspiration, on peut retrouver un esprit qui est à la fois au principe de toutes ces manifestations et les explique. Alors, nous allons commencer par la modernité, et puis nous verrons en fonction de la modernité ce que dit la tradition ou ce qu'il faut penser de la tradition dans ses rapports à la modernité. La modernité, encore une fois, je vais essayer de m'en tenir à ce qui me semble être l'inspiration profonde de ce qu'on peut considérer comme étant la modernité. C'est d'abord un terme qu'il faut un tout petit peu cerner. Je veux dire que si on demande à l'homme de la rue ce que c'est que d'être moderne, il aura une réponse toute prête. Il pensera par exemple que sa voiture est moderne si elle consomme moins d'essence, que sa voiture est moderne si elle va plus vite, que son frigidaire est plus moderne parce qu'il conserve mieux les aliments, etc. En un sens, par conséquent, voyez-vous, la notion de modernité, dans son sens le plus banal, mais sans doute le plus répandu, est corrélative ou signale l'idée ou le sentiment d'un progrès, et en particulier d'un progrès technique. Être moderne, c'est une qualité. C'est spontanément vécu comme une qualité, la qualité est une qualité en particulier technique. Alors, en ce sens, c'est un terme, si vous voulez, très vaste, très vague, très général, et on peut imaginer qu'il y ait toujours eu des modernes à toute époque du monde, dans la mesure où, même si le mot n'existait pas ou le concept n'avait pas exactement sa signification actuelle, il y a toujours eu des gens qui pensaient, si vous voulez, être plus efficaces, vivre mieux, vivre plus confortablement, ou être plus astucieux ou plus intelligent que n'étaient leurs ancêtres. Cela étant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit naturellement. Ce qui doit nous intéresser ici, c'est une acception un peu plus philosophique, je dirais, du terme de modernité. En effet, ce qui se passe et ce pourquoi on peut parler de modernité, c'est tout simplement que il semble bien que depuis ça remonte, on pourrait situer le début de la modernité à la fin du XVIe siècle, ou vers la seconde moitié du XVIe siècle. Mais dans tous les cas, au XVIIIe siècle, de manière extrêmement insistante, extrêmement claire, extrêmement évidente, et de manière extrêmement consciente, il y a eu des hommes pour penser, n'est-ce pas, qu'ils étaient entrés dans littéralement une nouvelle ère de l'humanité. La notion de modernité n'était peut-être pas utilisée couramment, mais en tous les cas, l'idée qui est évidente au XVIIIe siècle, c'est que on ne vit plus seulement à une époque qui, comme toutes les autres, comporte un certain nombre de progrès techniques que les autres ne connaissaient pas, on est entré dans une époque qui est véritablement différente, profondément différente de tout ce qui a pu se faire dans le passé. Être moderne, vous avez en France ou en français, n'est pas, vous avez eu un débat intellectuel, philosophique, littéraire, artistique, qui s'est intitulé précisément dans cette période, à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, la querelle des anciens et des modernes. La querelle des anciens et des modernes. Et au XVIIIe siècle, même si les tenants des modernes dans cette querelle n'étaient pas exactement tout ce que les philosophes sont devenus au XVIIIe siècle, toujours est-il que c'est la notion de modernité apparaît, et les philosophes du XVIIIe lui donnent un sens relativement précis. Enfin, je veux dire, en ce sens précis, au moins étant donné l'ampleur qu'ils attribuent au phénomène, étant donné le caractère radical qu'ils attribuent à la coupure entre la modernité et le passé, la tradition ou tout ce qu'on voudra. Pas. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit véritablement d'une notion philosophique. Être moderne, c'est pas seulement être un peu mieux que ce qui était avant, c'est être différent. C'est, avec la modernité, vous avez pratiquement, n'est-ce pas, quelque chose comme un homme nouveau, un nouveau type d'homme qui apparaît, où l'homme apparaît dans la modernité sous une forme qu'il n'avait pas adoptée auparavant, qu'il n'avait pas connue auparavant. Il s'agit vraiment d'un homme qui, à certains égards, n'est-ce pas, qu'on n'avait jamais vu sur Terre avant. Alors, de quoi s'agit-il ? Et comment peut-on essayer de définir ? Ben la définition de la modernité, d'une certaine manière, elle tient en un mot. Enfin, et je vous renvoie sur ce point au terme usité constamment dans le XVIIIe siècle, n'est-ce pas, qui pour définir justement cet esprit central, n'est-ce pas, pour essayer de définir ce cœur de la modernité doit suffire, c'est le mot de raison. La modernité correspond l'âge de raison de l'humanité. Les hommes sont devenus ou deviennent ou sont en passe de devenir, n'est-ce pas, en pleine possession de la raison. Le culte de la raison est à la fois central au XVIIIe siècle et, je crois, central dans toute la tradition moderne, si j'ose dire. Dans toute la modernité, dans tous les développements de la modernité. Alors, cela étant, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le problème, n'est-ce pas, est de savoir ce que signifie cette raison. Qu'est-ce que, au fond, les modernes entendent par raison ? Qu'est-ce que c'est que cette faculté que, semble-t-il, on connaissait déjà depuis longtemps ? On n'a pas attendu les modernes pour parler de la raison. Alors, qu'est-ce que c'est ? La première remarque qui, je crois, il faut faire, c'est que cette notion de raison, cette notion de modernité, est inséparable de l'apparition d'une vision nouvelle de l'homme en général, de l'humanité, caractérisée par le fait que l'on se met à concevoir l'humanité, au fond, comme un seul être qui devient. Comme un organisme, n'est-ce pas, unique d'une certaine manière, n'est-ce pas, on cesse, si vous le voulez, en d'autres termes, de faire de l'histoire conçue comme l'histoire des faits et gestes de X ou de Y, d'un roi ou d'un peuple, etc. L'histoire devient une histoire de l'humanité. C'est le XVIIIe siècle et le siècle où l'on invente. Je pense que vous le savez, on vous en a parlé, c'est le siècle où l'on invente la philosophie de l'histoire. Et cette philosophie de l'histoire, c'est la philosophie de l'histoire de l'humanité. C'est par rapport à cette espèce de vision de l'humanité conçue comme un seul être qui devient progressivement que la notion de raison, que la notion de modernité prend son sens. L'humanité est comparable, si vous voulez, à un enfant, ou à un être, à un homme, n'est-ce pas, ou à un être humain, plus exactement, à un être humain qui est passé par un âge infantile, qui est devenu enfant ou adolescent, et puis qui, un beau jour, parvient à la maturité. L'âge de raison de l'humanité, c'est la modernité, et l'âge de raison, c'est l'âge de la maturité. L'homme est enfin, les hommes sont devenus mûrs. Les hommes sont devenus vraiment des hommes. Avant, ils n'étaient que des hommes en gestation, des hommes en puissance. La modernité, si vous voulez un autre terme encore, définit l'âge adulte de l'humanité. Les hommes sont devenus adultes, ils sont devenus pleinement hommes. Ce qui vous explique pourquoi, avant, il y avait quelque chose de tout à fait différent, parce que l'être n'était pas encore parvenu à sa pleine réalisation. Alors, ce qui caractérise donc, encore une fois, cet âge adulte, cette période où l'humanité est sortie de ses limbes infantiles, eh bien, c'est la raison. Alors, qu'est-ce que c'est que la raison pour les modernes? Qu'est-ce que c'est que cet esprit de raison qui caractérise la modernité dont les modernes se vantent tellement, n'est-ce pas? Vous savez tous comme moi que pendant tout le XVIIIe siècle, on encense la raison, et à la fin du XVIIIe siècle, on la traite même comme une déesse, on lui rend un culte, on lui élève des statues, le peuple se rend et elle prend la place de Dieu. Bon. Alors de quoi s'agit-il? Alors la raison, ce n'est pas un mot nouveau. La raison n'est pas un mot nouveau, comme vous le savez, la raison est une faculté de l'esprit humain que tous les philosophes ont salué, que tous les philosophes ont étudié, n'est-ce pas, et ça depuis Platon jusqu'à nos jours. Les modernes n'inventent pas la raison. Seulement, s'ils n'inventent pas le mot, ils inventent la chose. Le mot était bien connu, mais en réalité, ils utilisent, comme ça c'est souvent le cas avec les idées modernes, ils utilisent certes le même mot, mais le contenu n'est plus du tout le même. La raison, pour aussi bien, et il y a une grande continuité de ce point de vue, et c'est pour ça d'ailleurs que les philosophes chrétiens ont pu retrouver les philosophes païens, il y a une continuité de ce point de vue. Qu'est-ce que c'était que la raison, tant pour les païens que pour la philosophie païenne que pour la philosophie chrétienne? Je dirais au moins trois choses. D'abord, la raison était une faculté de l'esprit qui lui permettait de saisir la réalité des choses. C'était la faculté de l'esprit grâce à laquelle il parvenait au-delà des apparences, au-delà de tout ce que les sens pouvaient fournir de trompeur. C'était la faculté de l'esprit par laquelle il parvenait à l'essence des choses, comme la philosophie l'a toujours dit, parvenir, ou si vous préférez encore, à la vérité des choses. Et bien entendu, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que cette vérité, cette essence, cette réalité réelle, véritable, était conçue comme essentiellement indépendante de l'esprit. Pour reprendre la vieille formule scolastique, la vérité, c'est l'adéquatio rei et intellectus, l'adéquation de la chose et de l'esprit. L'esprit se moule sur la chose, l'esprit va chercher la chose, et il ne la fait pas. Par définition, il ne la fabrique pas. La compréhension des choses est intrinsèquement réaliste. On s'efforce d'aller vers le réel et on se moule sur lui. Le réel n'a que faire des divagations de l'esprit humain. On peut penser n'importe quoi, mais l'esprit qui pense la vérité est un esprit qui sort en quelque manière de lui-même pour rejoindre la réalité. La vérité, la raison est faculté de saisir l'objectivité, si vous voulez. La raison est objective. Ça, c'est un premier caractère. Deuxième caractère qu'on peut mentionner rapidement, qui est un caractère massif de cette idée de raison. Alors ça me paraît une idée tout à fait décisive. Vous allez comprendre, c'est sur ce genre d'idée que va s'articuler le basculement vers la modernité. Classiquement, tant pour, encore une fois, le paganisme que pour le christianisme traditionnel, cette réalité, cette vérité des choses avait cette caractéristique essentielle de désigner non pas seulement l'objectivité, les choses dans leur objectivité, mais de constituer par là même une norme pour le comportement humain. Si vous voulez, exprimons la chose très rapidement en deux mots, la vérité était aussi le bien, et même, si l'on veut, le beau. Pas la trilogie grecque, que l'on retrouve tout à fait dans la pensée chrétienne, même si, naturellement, l'origine de la réalité ou de la vérité était changée, pas le fait capital demeure que l'homme qui se servait de, de sa raison, pas, était capable de, rendu capable d'accéder à la nature des choses, mais accéder à la nature des choses, c'était comprendre, n'est-ce pas, pourquoi elles étaient ce qu'elles étaient. Mais comprendre pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, c'est évidemment comprendre d'une certaine manière qu'elles doivent être ce qu'elles sont. Oui, il y a une, la vérité des choses est compréhension des choses, et à partir du moment où cette compréhension est rationnelle, à partir du moment où les choses deviennent rationnelles, il est évident que les choses ne peuvent pas être, à moins de folie de la part de l'homme. L'homme ne peut pas vouloir qu'elles soient autre chose que ce qu'elles sont, puisqu'elles sont, parce qu'elles sont, raisonnables, rationnelles. Donc, n'est-ce pas, cette vérité était en même temps norme de comportement. Je crois qu'on peut dire, par exemple, que lorsque dans le Dieu dit pour les chrétiens « Je suis la voie et la vérité », n'est-ce pas, je suis... Eh bien, c'est effectivement, la vérité est une norme. C'est la vieille idée traditionnelle philosophique. Bon. Et puis alors, une troisième et dernière caractéristique, dans ces conditions, n'est-ce pas, il est bien évident que la raison est une faculté de l'esprit des hommes, mais il est bien évident que c'est une faculté qui s'exerce individuellement. Pas ? Les hommes ont chacun une raison, s'en servent, puis il y en a qui s'en servent bien, il y en a qui s'en servent moins bien, il y en a d'autres qui s'en servent pas du tout. Chacun est responsable de l'usage de sa raison. Vous avez des sages ou des saints, vous avez des sages, pas, ou à la grecque, ou vous avez des philosophes à la Saint Thomas, et puis vous avez des gens qui ne se servent pas de leur raison, et vous avez des gens qui, évidemment, ne cherchent pas à accéder à la vérité. C'est une chose, la raison est en droit la même en tous, mais en fait extrêmement différente d'homme à homme. Pas. Les hommes ne sont pas tous également raisonnables. Bon. Alors, reprenons, vous allez voir que, alors, là, sur ces trois points, j'ai énoncé ces trois points parce que précisément, la modernité renverse complètement, pas, renverse complètement la signification de la notion de raison, précisément au niveau de ces trois caractères, pas, au niveau des trois caractères que cette faculté avait pour les classiques. Alors, je crois que le phénomène décisif, ce qui me paraît le phénomène capital, pas, c'est de comprendre d'abord et avant toute chose que pour les modernes, pas, pour les modernes, eh bien, le monde, la vérité, pour reprendre les termes précis que j'ai utilisés tout à l'heure, la vérité cesse d'être normative. La vérité, c'est ce que, certes, la raison continuait à chercher et à atteindre, mais la vérité n'a plus ce pouvoir de commander les comportements. Je veux dire tout simplement, n'est-ce pas, qu'il se produit une scission que l'on peut exprimer d'ailleurs de manière extrêmement concrète, pas, et qu'on peut exprimer de manière très très simple et je crois très vivante. Pas. Il se produit une scission entre ce que j'appellerais le savant et le philosophe, ou le savant, pas, et l'homme de foi. Dans le monde classique, pas, dans le monde classique, la raison, c'était simultanément la science, la foi et la morale. Pas. La raison, c'était, on était simultanément philosophe, mathématicien, médecin, théologien et tout ce que vous voudrez. Ce qui caractérise la modernité, c'est au contraire qu'il se produit une césure, qu'une antinomie apparaît entre l'homme de science qui étudie scientifiquement le réel et puis le philosophe, le sage, le saint, qui étudie ce que les comportements humains doivent être. Là, si vous voulez, la réalité, pas, a cessé, comprendre la vérité de la réalité, ça a cessé d'être comprendre ce en quoi la réalité pouvait constituer une norme de comportement. Ou plus exactement, pas, le fait d'élaborer une loi physique, n'est-ce pas, le fait de découvrir une loi de physique, vous le savez tous, d'une certaine manière, ne donne aucune espèce d'indication morale, éthique, hein, ne comporte aucune leçon pour le comportement des hommes. Eh bien ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui me paraît absolument capital. Et pour l'exprimer d'un mot, je dirais que, si vous voulez, la raison, malheureusement le français ne dispose pas de deux substantifs, bien qu'il y ait deux adjectifs. La raison des classiques était une raison que j'appellerais, était la raison au sens d'une faculté d'être raisonnable. La raison des classiques était raisonnable. La raison des modernes a changé de sens. Elle est rationalité. Le mot de raisonnabilité n'existe pas. Mais en réalité, les deux, la raison a changé de sens, elle était raisonnabilité, elle est devenue simple rationalité. En effet, vous comprenez qu'il se produit une modification dans l'utilisation et dans la signification de cette raison, dès lors que le monde, n'est-ce pas, a perdu cette espèce de dès lors que le vrai n'est plus le bien, dès lors que le monde a perdu ce sens qui faisait que l'ordre des choses s'imposait d'une certaine manière aux hommes comme leur loi implicite, du simple fait que, puisque les choses étaient bien comme elles étaient, le premier des devoirs de l'homme, c'était de respecter ça, ce qui était bien. Eh bien, du fait que, la nature est devenue en quelque manière un donné neutre. Eh bien, la raison se modifie de deux manières. D'une part, elle continue éventuellement à être la science du réel, la science de la réalité. Mais cette science ne consiste plus à comprendre ce qu'il y a de bien ou de bon dans la réalité, puisque par définition, le vrai n'est plus le bien, mais consiste simplement à comprendre comment ça marche, comment la réalité fonctionne. Ce qui, du même coup, vous indique la deuxième modification profonde qui intervient dans la notion de raison, ou dans la faculté de la raison. Et la raison qui était spontanément contemplative, ou faculté de contempler dans le monde classique, le prototype, n'est-ce pas, de l'homme classique, c'est le sage qui regarde les étoiles, qui voit l'ordre et qui se dit « cet ordre est bon, cet ordre est harmonieux ». Il est philosophe et savant, il est astronome et philosophe en même temps. Quand l'astronome moderne contemple les étoiles, il se dit simplement « bon, je vais essayer de calculer à quel moment la Lune sera cachée par la Terre, je vais essayer de calculer les régularités ». J'ai plus rien, y a rien à contempler, enfin, c'est assez joli, oui, ça brille, enfin, c'est, les étoiles sont, bon, constituent un spectacle agréable, enfin, pas chercher au-delà. Enfin, la nature se manifeste par des régularités, et par conséquent, ma raison sert d'un côté à essayer de déterminer ces régularités, et de l'autre, à me permettre de me comporter comme je veux par rapport à ces régularités. Si vous voulez, la raison rationnelle, c'est la science. Et la science, c'est la compréhension de la nature comme de quelque chose sur quoi on peut agir. La raison a cessé d'être contemplative, la raison est devenue utilitaire, elle est devenue science, et en devenant science, elle est devenue capacité d'action. Elle a cessé d'être une faculté théorétique, comme disent les philosophes, n'est-ce pas ? Elle est devenue une faculté de pragmatique. Alors, vous comprenez que dans ces conditions, n'est-ce pas, il est bien évident que l'objectivité de la réalité, je vous ai dit tout à l'heure, la raison, c'était la saisie d'une vérité. Il est bien évident que l'objectivité saisie par la raison, a un caractère très différent dans le monde moderne. Certes, il ne s'agit pas de dire que la réalité est un, enfin, Je peux la modeler comme je veux, qu'elle est à ma disposition, n'est-ce pas? Je ne suis pas maître des éclairs et du tonnerre et de la force des vagues, et que sais-je. Les phénomènes, la réalité que la science détermine a néanmoins ce caractère essentiel d'être essentiellement la réalité à laquelle l'homme s'intéresse en fonction de certains besoins. La réalité, c'est, au fond, ce secteur de la nature auquel je m'intéresse parce qu'il constitue pour moi un problème pragmatique, un problème utilitaire, et d'une certaine manière, n'est-ce pas, la science devient relative à la saisie que l'homme peut en prendre. Hein? Vous avez trouvé cette idée très bien exprimée, très profonde, chez un homme comme Auguste Comte, que vous connaissez peut-être, le fondateur de cette philosophie qu'on appelait le positivisme. Auguste Comte, c'est un moderne très caractéristique, n'est-ce pas? C'est un homme qui croit en la science et dans le pouvoir de la science, et qui considère que précisément la modernité, c'est l'âge l'âge adulte de l'humanité. Comment cet âge adulte se caractérise-t-il? Il se caractérise par le fait que l'homme est capable d'une science, n'est-ce pas? Une science positive, d'une science au sens moderne du terme. Mais dit-il, après avoir dit tout ça, il dit que tout le savoir humain est relatif, pas relatif à nos besoins, relatif à ce que l'humanité veut faire. Pas, il ne s'agit plus de saisir une vérité qui nous dépasse, ça existe peut-être, cette réalité qui nous dépasse, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, dit en somme le savant moderne, n'est-ce pas, c'est la réalité dans la mesure où elle peut m'empêcher d'exister comme je le veux, elle peut m'empêcher d'agir, elle peut me gêner, n'est-ce pas, et par conséquent, la réalité, c'est en réalité ce que je cherche, est circonscrite par ma capacité d'action sur la réalité. Bon, troisièmement, et par rapport au troisième caractère, ce qui est très, j'avais dit tout à l'heure, la raison est classiquement une faculté individuelle. Sa maturation est personnelle. Tous les hommes ne sont pas également raisonnables. Eh bien, voyez-vous, d'une certaine manière, ce qui caractérise la modernité, c'est qu'en fonction de cette définition nouvelle de la réalité, on peut penser que la raison est infiniment plus diffusable. S'il y a progrès de l'humanité, si l'humanité parvient à la modernité, c'est-à-dire à l'âge de raison, cela signifie que tous les hommes, d'une certaine manière, sont devenus raisonnables. Que d'une certaine manière, il y a eu un progrès, comme disaient les hommes du XVIIIe siècle, comme disait un philosophe français, il y a eu un progrès de l'esprit humain. Alors comment admettre que tous les hommes, par quel miracle peut-il se faire que tous les hommes, tout d'un coup, soient devenus raisonnables? Comment se fait-il, peut-il se faire que l'esprit de chacun, les hommes soient devenus, si vous voulez, enfin, plus grossièrement, de manière plus simpliste, plus intelligent? Eh bien, c'est précisément ce miracle, si vous voulez, n'a rien que d'explicable et que de naturel, dès l'instant que la raison est conçue, selon le mode moderne, comme rationalité et non plus comme raisonnabilité. Je veux dire par là, pourquoi est-ce que ça devient compréhensible que tous les hommes soient, entre guillemets, plus intelligents? Parce que précisément, la raison a cessé d'être raisonnable. La raison a cessé d'être la faculté de réfléchir sur les fins possibles. Elle a cessé, si vous voulez, en prenant un terme plus simple, elle a cessé d'être faculté d'être sage, ou d'être visée de la sagesse. Elle est devenue instrumentale, elle est devenue science, elle est devenue, si vous voulez, capacité d'agir sur les choses. Eh bien, si vous vous donnez cette définition, il est bien clair qu'on peut dire, on peut soutenir, que tous les hommes sont devenus plus raisonnables, enfin entre guillemets, puisqu'il n'y a pas deux mots, enfin, parce qu'ils sont devenus plus rationnels, c'est-à-dire tout simplement parce qu'ils ont plus de connaissances techniques. Incontestablement, n'importe qui de nos jours a plus de connaissances techniques que Platon n'en avait. Incontestablement, de nos jours, n'est-ce pas, n'importe quel individu est capable de faire des choses que n'importe quel philosophe médiéval n'aurait jamais rêvé de pouvoir faire. Et j'ajouterais même, parce que c'est un fait qui me paraît assez frappant et très grave du point de vue de la formation des hommes d'ailleurs, n'est-ce pas, les savoirs distribués dans les établissements d'enseignement de nos jours est un savoir de plus en plus purement instrumental, si vous voulez. Je veux dire que on apprend aux gens, ça me paraît particulièrement caractéristique, si vous voulez, par exemple de l'ordinateur et des sciences informatiques. De plus en plus de gens savent se servir d'un ordinateur. Mais pour se servir d'un ordinateur, enfin, non seulement il n'a pas besoin d'être sage, bien entendu, mais même, il n'est même pas besoin de savoir exactement comment se construit un ordinateur. L'usage de l'ordinateur ne suppose même pas la science de l'ordinateur. Moyennant quoi, eh bien, il est évident qu'une quantité formidable d'individus peuvent être déclarés en possession d'une raison mûre, n'est-ce pas, et peuvent être déclarés tous ensemble décrire un nouvel état de l'esprit humain, un nouveau stade de la raison. Vous voyez, c'est le caractère purement rationnel, c'est le caractère instrumental, encore une fois, de la raison qui permet ce genre d'affirmation. Alors, ajoutons pour achever cette première définition de la modernité, ou ce qui me paraît un aspect essentiel de la modernité, ajoutons que, si sur la base de cette idée, n'est-ce pas, cette modification profonde, de cette transformation radicale, hein, de ce renversement du tout au tout de la raison, de la faculté de la raison, ce qui caractérise sur cette base donc la modernité, c'est encore tout ce que les modernes espèrent tirer comme bénéfice de cette nouvelle raison, de cette rationalité. Enfin, la modernité, c'est une nouvelle rationalité, et cette nouvelle rationalité détermine un âge nouveau, parce que détermine la maturité, enfin, ouvre à l'humanité les portes d'un avenir radicalement différent, parce que les modernes, ce qui caractérise la modernité, ça c'est beaucoup plus facile à comprendre et vous allez le voir tout de suite, parce que les modernes font une confiance illimitée à cette raison pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. Enfin, la modernité, c'est une nouvelle définition de la raison, et sur la base de cette nouvelle définition, une confiance dans la capacité qu'a l'humanité de se transformer elle-même sous l'impulsion de cette raison. Alors, comment se transformer? Où sont les transformations? Et quels sont les résultats de cette confiance, n'est-ce pas? Quels sont les espoirs que fait naître cette nouvelle raison? Ben, vous le connaissez tous, ça, je peux aller beaucoup plus vite, c'est très simple. On peut en mentionner, pour aller vite, si vous voulez, de trois ordres, puis les deux premiers, ça va beaucoup plus vite. Le premier, c'est naturellement que l'humanité va cesser. Alors ça, c'est quand même un mythe important. C'est quand même, ça a beau être très élémentaire et presque infantile, très enfantin, c'est quand même un mythe constitutif de la modernité. Grâce à la raison, sous sa nouvelle forme, n'est-ce pas, l'humanité va sortir enfin de sa misère, va sortir de la pénurie, va sortir de cet état où elle était écrasée par la nature. L'humanité va enfin dominer la nature. La philosophie que je connais est pleine de formules, tout à fait extraordinaires, où s'affirme la confiance en la capacité de l'homme à être désormais vraiment, pleinement, entièrement maître de la nature. Et je peux vous donner un exemple amusant. Vous connaissez peut-être un auteur français du XVIe siècle qui s'appelle Rabelais, François Rabelais, qui est c'était d'ailleurs un moine défroqué et prêtre en même et médecin en même temps, il a écrit des romans fort célèbres des romans qui sont de critiques sociales déguisées, où il y a des personnages mythiques qui sont c'est des romans à clé, si vous voulez, comme on dit. des personnages mythiques désignant les vertus de la nouvelle société, les vices de l'ancienne, etc. Bon, enfin, peu importe, mais il écrit vers 1500, vers le milieu du 16e siècle, hein, je ne sais plus les dates précises en tête, mais enfin, mettons en gros, vers le milieu du 16e siècle, 1550. Vous savez ce qu'il écrit dans un passage? Alors, il croit beaucoup à la science, c'est déjà un moderne. Il est pour le développement des sciences, il est pour le développement de l'étude de la nature. Et il dit, il viendra un jour où les hommes pourront sans doute vaincre la mort elle-même. Alors ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est très métaphysique, d'une certaine manière. C'est profondément métaphysique ou théologique. N'est-ce pas ? Vaincre la mort, c'est sortir de la condition humaine. La domination de la nature est telle que l'homme pense transformer sa propre nature et littéralement devenir immortel, c'est-à-dire devenir Dieu. Là, les hommes attendent, alors vous voyez que la modernité, c'est une phase nouvelle, véritablement, de l'histoire de l'humanité, parce que c'est la première fois que les hommes, d'une certaine manière, peuvent espérer cesser d'être hommes. Ça vous montre bien l'extraordinaire nouveauté, n'est pas la coupure radicale avec tout ce qui pouvait se passer auparavant. Bon, ça c'est un premier ordre de conséquences. Vous en avez un deuxième, alors ça je passe beaucoup plus vite. Qu'est-ce que va faire la raison? Quels sont l'autre bénéfice? Ben, les hommes vont devenir plus libres, plus égaux, ils vont vivre en paix. Ça va être enfin une espèce de paradis terrestre, plus égaux évidemment, parce que plus libres, parce qu'ils pourront faire plus de choses, plus égaux, parce qu'ils seront de plus en plus savants, parce qu'ils seront de plus en plus libres, donc ils ne peuvent pas ne pas être égaux, et plus en paix, puisque précisément, comme ils ont de plus en plus ils sont de plus en plus rationnels, n'est-ce pas, ils vont de moins en moins se comporter violemment. Enfin, la raison, c'est le contraire de la science. Je vous signale qu'il y a là encore l'origine d'un mythe moderne extrêmement fort, n'est-ce pas, auquel les gens croient beaucoup, et ce qui vient de cette origine philosophique, de cet horizon philosophique, les gens, on vous dit, les sociétés je traduis exprès en termes très concrets, enfin en sautant les intermédiaires, les sociétés industrielles sont des sociétés pacifiques. Quand on réalise le progrès économique et technique, est synonyme de paix sur la terre. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire de dessin, pour dire que cette idée qu'elle apparaît avec deux siècles de distance, mais on continue d'ailleurs à la maintenir, enfin, à observer de la manière la plus superficielle ce qui a pu se passer depuis deux siècles, on est porté à se demander si cette idée est bien raisonnablement fondée. Enfin, n'empêche que c'est une croyance profondément enracinée dans l'âme moderne, ou dans l'âme des modernes. Et puis, il y a un troisième ordre de conséquences, et celui-là, je veux le mentionner, parce que il est particulièrement surprenant, n'est-ce pas ? Il est particulièrement notable, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans un instant pour parler de la tradition, en parlant de la tradition. Le troisième aspect de la question, le troisième bénéfice que les modernes attendent de la raison, il est tout à fait extraordinaire. Ils pensent que grâce à elle, les hommes vont devenir meilleurs. Les hommes vont devenir bons. Les hommes vont devenir, enfin, si vous voulez, la rationalité va donner la sagesse. Vous voyez, on récupère la vieille idée, on récupère la vieille ambition, n'est-ce pas ? La raison, c'était la science de la sagesse. Eh bien, la rationalité des modernes, ça, c'est vraiment la raison qui donne la sagesse. Les anciens se trompaient, les chrétiens se sont trompés, c'est leur raison ne sert à rien. La raison des modernes, elle sert à ça. Et pourquoi ? Alors, vous trouvez cette idée exprimée dans tout le XVIIIe siècle. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Les auteurs, les philosophes, comme on dit, les philosophes des Lumières, n'est-ce pas, sont unanimes sur ce point. Le développement du savoir équivaut à une amélioration morale de l'humanité. Et alors, je vous signale au passage, nous y reviendrons en conclusion, mais je vous signale déjà l'idée, elle est très remarquable. Quelle est leur logique? Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Ça veut dire, si vous voulez, en d'autres termes, que si vous êtes capable de construire un frigidaire, vous êtes un homme meilleur. Bon, pourquoi? Eh bien, le raisonnement est peut-être restitué de la manière suivante. Ils pensent que, au fond, les hommes ne sont pas vraiment mauvais en eux-mêmes, mais que c'est simplement le malheur dans lequel ils vivent qui les rend mauvais. Quand vous avez faim, vous êtes méchant. Quand vous êtes rassasié, vous êtes bon. Alors évidemment, sur ces bases, je vais revenir tout à l'heure sur cette idée, elle me paraît très importante, mais enfin je vous montre ce qu'ils veulent dire tout simplement dans un premier temps. Bah, quand vous êtes rassasié, vous êtes bon, par conséquent, comme la science, bah, c'est le progrès économique, c'est le progrès technique, bah, la science rend les hommes bons. Bah. Alors, voilà, si vous voulez, une première définition de la modernité. Je voudrais la compléter par un troisième trait ou élaborer la définition une définition légèrement différente de la modernité, et je le dis en deux minutes, enfin je ne veux pas, j'essaie de me tenir à mon temps. Je vous ai donc présenté, si vous voulez, une définition de la modernité fondée sur une certaine conception de la raison, n'est-ce pas, et sur les bénéfices que les hommes attendaient de cette raison. Eh bien, cette définition a en gros tenu le coup, si j'ose dire, n'est-ce pas? Elle a tenu le coup, en gros, jusque... à un moment quelconque du début de ce siècle. Mettons même, encore le monde est entré dans la Première Guerre mondiale avec encore beaucoup d'illusions. Puis la Première Guerre mondiale, puis l'entre-deux-guerres, puis la Seconde Guerre mondiale... Puis, alors là, les choses se sont un peu accélérées, le communisme, tous ces phénomènes ont provoqué, et c'est assez sensible actuellement, je trouve, dans l'intelligentsia internationale, ont provoqué comme une espèce de doute à l'égard de la modernité. Il n'est pas rare de voir des gens qui, sans vouloir une seconde entendre parler de la tradition, n'est-ce pas, disent que après tout, vous les connaissez comme moi, les États-Unis en sont pleins, le Nouveau Monde en est plein, de ces gens qui disent finalement, la rationalité économique est inhumaine, n'est-ce pas, nous vivons comme des robots. Nous vivons comme des machines, on part travailler le matin, on revient le soir, on n'a jamais le temps de lire, on n'a jamais le temps de réfléchir, n'est-ce pas, tout ça. Bon, et puis la raison, ça a été aussi la bombe atomique, la raison, la science, c'est très joli, mais ça fait aussi, ça donne un pouvoir à l'homme épouvantable, l'énergie nucléaire est aussi bien une catastrophe qu'une bénédiction, les progrès du confort finissent par donner des habitudes quasiment animales aux gens. Les gens ne pensent plus qu'à leur voiture, qu'à leur maison. Il y a de la télévision, sont abrutis. On connaît ce genre de critiques, on les voit, n'est-ce pas, se multiplier. Le hippie, n'est-ce pas, le hippisme, l'écologisme, tous ces mouvements contemporains correspondent à une espèce de vague critique, n'est-ce pas. Bon. Cela dit, bien entendu, il ne s'agit pas une seconde d'aller se demander s'il ne pourrait pas y avoir autre chose, c'est-à-dire précisément s'il ne pourrait pas y avoir de la tradition. Ah, ça, non, ça c'est exclu, on reste quand même à l'intérieur de la modernité, mais enfin, certains des éléments, n'est-ce pas, de cette modernité apparaissent quand même assez fâcheux. Bah. Depuis quelques années, c'est pour ça que je voudrais ajouter ce troisième élément constitutif de la notion de modernité, depuis quelques années, il me semble qu'on a vu apparaître un autre courant tout à fait intéressant parce qu'il a des ramifications variées, parce qu'il se manifeste aussi bien dans le monde scientifique que dans le monde religieux, que dans le monde politique, et que dans le monde philosophique. On voit apparaître un autre courant qui cherche, je dirais, à sauver la modernité. À montrer que, bon, certes, c'est entendu, la modernité, la raison, la rationalité n'a pas, comme on le croyait, peut-être un peu naïvement, au XVIIIe siècle, n'a peut-être pas sauvé définitivement l'humanité de tous ses malheurs, n'est-ce pas, n'a peut-être pas perfectionné définitivement l'humanité. Enfin, néanmoins, il ne s'agit pas de saborder le progrès, il s'agit de lui adjoindre quelque chose. La modernité, il faut quand même la sauver. Alors, bon, ça ne peut pas être uniquement la science, n'est-ce pas? On dénoncera volontiers un certain scientisme. Alors, c'est quoi la modernité? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Alors là, on a découvert depuis, depuis quelques dizaines d'années, une idée que vous connaissez tous, qui est en passe de devenir, enfin, le grand bateau de l'époque moderne, n'est-ce pas, sur lequel tout le monde embarque avec enthousiasme, n'est-ce pas, qui est devenue la grande idée moderne qui se conjugue avec la science, et qui est à peu près la suivante. Elle consiste à dire, au fond, eh bien, oui, bon, la science, c'est peut-être pas très bon, mais quand même, l'homme est en puissance de raison, l'homme dispose d'une faculté, de cette faculté de rationalité, il est quand même capable de se gouverner lui-même, hein, puisqu'aussi bien il est capable de se gouverner techniquement. Bon, eh bien, c'est l'amorce. C'est l'amorce d'une autre capacité d'autonomie, c'est l'amorce d'une autre autonomie, qui n'est pas encore développée, mais qui va l'être. Eh bien, cette espèce de foi dans le potentiel humain, cette foi qui se dirige sur un homme qui n'existe pas encore, mais qui est censé devoir exister, et qui est censé devoir exister en tout homme, c'est les droits de l'homme. C'est la philosophie des droits de l'homme, c'est cette foi en cet être potentiel, c'est la foi en un être qui, puisqu'il va être un jour pleinement homme, d'une certaine manière il l'est déjà, et par conséquent il faut le respecter tel qu'il est, puisqu'un jour il va devenir ce qu'il est. Je ne veux pas entrer dans des considérations un peu techniques ici, vous n'êtes peut-être pas très habitué à la philosophie, mais il y a un homme, il y a un nom qu'il faut citer à cet égard, c'est l'inventeur de la philosophie des droits de l'homme. D'ailleurs il ne date pas exactement d'aujourd'hui, mais très curieux, il ressort maintenant. C'est en réalité l'inspirateur profond de cette philosophie, c'est lui qui complète par la définition de la modernité, c'est le philosophe allemand Emmanuel Kant. Le kantisme qui ressurgit en France à plein gaz, le kantisme qui est aujourd'hui en France un mouvement en plein redéveloppement, parce qu'enfin on connaissait Kant, n'est-ce pas, correspond très exactement à cette espèce de déception à l'égard de la science et des résultats de la rationalité, mais qui se transforme tout d'un coup en un optimisme, parce que précisément l'homme n'est naturellement pas bon comme il est, mais il est bon en puissance, donc il faut le respecter tel qu'il est. Cette espèce de raisonnement parfaitement vicieux, est caractéristique du kantisme et caractéristique, à mes yeux, du dernier stade de la modernité ou de la définition complète actuelle de la modernité. Ce qui conduit, vous l'avez compris naturellement, à définir la modernité dans son opposition à précisément ce qui vient avant, aux ténèbres obscures des siècles qui ont précédé les siècles modernes, ce qui aboutit à faire de la modernité la période où l'homme est enfin capable de tolérance, est enfin capable de respect de l'autre, est enfin capable de dialogue, est enfin capable de discussion, de libre débat, est enfin capable... pas à peine d'accumuler les termes, vous les devinez, on peut en accumuler 10 autres, n'est-ce pas? Et ils sont tous, ils désignent tous la même idéologie, ou ils procèdent tous de la même idéologie, n'est-ce pas? Qui est, encore une fois, complémentaire et qui semble parfaire la définition d'une modernité conçue comme un âge quasiment de perfection humaine achevée. Ce que la science ne donne pas suffisamment, et bien les droits de l'homme le donnent, et précisément en cumulant, en additionnant science et droits de l'homme, vous obtenez une humanité quasiment parfaite. Il est temps d'en venir, je n'ai que trop parlé, mais ce sont quand même des idées assez compliquées, je ne peux pas aller trop vite quand même, sinon ça n'a plus de sens. Je vais, comme ça arrive souvent, consacrer moins de temps à ce qui est le plus intéressant, après avoir consacré trop de temps à ce qui l'était moins. Je vais maintenant me tourner vers la tradition. Car en face de cette modernité subsiste une philosophie, subsiste une pensée qui est radicalement critique de la modernité. Subsiste une pensée parfaitement vivante, n'est-ce pas ? Et qui ne se laisse pas prendre aux séductions de la modernité. Alors, cette pensée, là encore, je peux encore moins entrer dans des détails, parce qu'elle est très riche, elle commence avec Platon, et elle continue encore de nos jours. La modernité n'a fait qu'essayer de l'obscurcir, qu'elle n'a fait essayer que de l'étouffer, mais en réalité, elle est parfaitement vivante, et par conséquent, ça fait donc, à l'heure actuelle, environ... pas 24 siècles qu'elle se poursuit. Alors, il est bien évident qu'il est hors de question d'essayer de la décrire en détail. Mais ce qu'on peut essayer de faire de la même manière, c'est d'en décrire l'intuition profonde, de décrire ce en quoi elle consiste dans son opposition à l'intuition moderne. Alors, je me propose de le faire très rapidement en deux temps. D'une part, en examinant ce que dit la tradition, quelles sont les critiques de la tradition, que la tradition est, oppose, n'est-ce pas, dirige contre la modernité. Quelles sont les critiques traditionnelles de la modernité? Et autre, procéder différemment, mais enfin, ça me paraît plus pédagogique, plus simple de voir les choses comme ça. Ensuite, nous en déduirons, dans un deuxième temps, de manière plus abstraite, n'est-ce pas, l'esprit le plus profond de la tradition. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire contre la modernité? Comment est-ce que cette espèce de vision extraordinairement admirable, bien semble-t-il, n'est-ce pas, de l'homme et de l'humanité, peut-elle être critiquée et en quoi est-elle critiquable? Eh bien, elle est critiquable de la manière suivante. Je voudrais trois exemples, si vous voulez, trois exemples de critiques de la modernité, ou trois exemples de contre-pied de la modernité. Ainsi, prenons par exemple une des choses dont les modernes sont les plus fiers, cette fameuse science, ce fameux progrès scientifique, n'est-ce pas? Bon, eh bien, les modernes se moquent de la tradition en disant, écoutez, il est clair que Platon ne pouvait pas construire d'avion à réaction. Saint Thomas n'était même pas fichu de concevoir une bicyclette. Ne parlons pas d'une voiture. Par conséquent, bon, n'en parlons plus, la question est entendue, on a affaire à des sauvages, à des primitifs ou à des idiots, comme on voudra. Dans tous les cas, ça ne présente aucune espèce d'intérêt. Eh bien, je crois que comprendre la tradition, c'est comprendre précisément qu'il ne s'agit ni de sauvages, ni d'idiots, ni de primitifs, mais de gens qui pensent autrement, qui ne pensent pas contre. S'il y a quelqu'un de réactionnaire, d'ailleurs, dans les D2, c'est le moderne. Le moderne, il réagit, il est contre la tradition. Mais la tradition ne pense pas contre, elle pense tout court. Et en l'occurrence, comprendre la tradition, c'est comprendre que son primitivisme, si vous voulez, entre guillemets, son primitivisme technique ou scientifique, n'est pas un primitivisme, justement, n'est pas l'effet involontaire de son ignorance, de son incapacité à parvenir à une science, mais que c'est une autre attitude. Et je veux dire que ça, les modernes ont beaucoup de mal à le comprendre, mais c'est pourtant très simple. Cela veut dire tout simplement que on peut peut-être se demander la domination de la nature, si le progrès scientifique est cette espèce d'idéal incontestable que les modernes croient. Dont il croit qu'il est un idéal, n'est-ce pas? Est-ce que le fait de dominer, d'être capable d'agir sur les gènes, sur l'homme avant qu'il soit né, est-ce que tout cela est une bonne chose? La tradition répond sans esprit critique, elle ne cherche pas à aider, elle a toujours dit une chose très simple. Elle a dit, et je reviens, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure de la raison, qu'est-ce qu'elle dit la tradition? Eh bien, elle dit tout simplement que il y a peut-être, et ce n'est pas parce que les modernes ne le voient plus, que cela n'existe pas. C'est pas parce que les modernes sont incapables de le voir que cela n'existe pas. Il y a peut-être dans les choses, dans la nature, comme on le voit dans les étoiles, un ordre secret. Il y a peut-être dans la nature, il y a peut-être dans le monde, dans l'univers, un plan secret. Il y a peut-être dans la nature, il y a peut-être dans le monde, dans l'univers, un plan secret. Il y a peut-être un sens des choses. Il y a peut-être une harmonie profonde. Il y a une beauté dans les choses. Ou il y a du bien dans les choses. Qu'il s'agit précisément de découvrir. Qu'il s'agit de découvrir. Et non pas de nier brutalement, et de considérer comme étant en réalité imagination enfantine. Il s'agit, l'attitude traditionnelle consiste à interroger les choses avant d'agir sur elles. Et en interrogeant les choses avant d'agir sur elles, eh bien la tradition trouve des raisons de ne pas trop agir sur elles. Et il ne s'agit pas de dire que la tradition est négatrice de toute science. Il ne s'agit pas de vivre comme des animaux. Vous ne trouvez jamais dans la tradition l'idée que l'homme doit se réduire lui-même à l'état d'animal. Ça, ce sont les imaginations modernistes. Mais la tradition dit simplement, eh bien, qu'il la technique, et je crois que nous en parlions l'autre jour ensemble, monsieur Lavé, il me semble, pas, eh bien, la technique, le développement technique pose une question. Tout simplement. Le développement technique pose une question. Jusqu'à quel point est-il bon? À partir de quand est-il mauvais? Et vous le voyez tout de suite, je passe là encore, n'est-ce pas, rapidement. Cette question n'est pas idiote. Cette question, ce n'est pas la question d'un primitif ou d'un ignorant. C'est la question d'un sage. N'y a-t-il pas des choses dont peut-être il vaut mieux que l'homme ne se rende pas maître? Croyez-vous en conscience que ce soit une bonne chose que de pouvoir manipuler les gènes humains de manière à pouvoir, on ne sait pas, peut-être, construire une espèce de nouvel homme monstrueux? Même les biologistes, même les savants modernes commencent à se poser la question. Et sans le savoir, ils renouent philosophiquement avec la tradition, qui n'avait jamais fait autre chose que poser ce genre de questions. Prométhée est enchaîné à son rocher parce qu'il a dérobé le feu aux dieux et l'a donné aux hommes. L'image mythique, vous la connaissez bien, elle signifie simplement qu'il y a peut-être des connaissances qu'il n'est pas dans la nature de l'homme de posséder. Ce n'est pas encore une fois de l'ignorance ou de la stupidité, c'est de la sagesse. Deuxième exemple. Prenons un autre exemple. Bon, je passe sur une autre chose que je pourrais ajouter. Bon, deuxième exemple. Les sociétés traditionnelles, disent les modernes, n'est-ce pas? Les sociétés traditionnelles, chacun le sait, sont des sociétés misérables. On y meurt de faim, on y meurt de froid, les hommes y meurent de maladies, c'est des sociétés épouvantables dans lesquelles pratiquement les hommes vivent comme des animaux, précisément. Alors, tandis que le monde moderne a offert à l'homme des conditions enfin humaines d'existence. Bon, ça, c'est un autre argument que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Les traditionalistes sont des réactionnaires, des retardataires, des passéistes. N'est-ce pas? Bon, ils sont pas modernes, justement. Enfin, bon. Alors, que faut-il penser? Eh bien, là, non seulement la tradition répond, mais elle est critique du développement économique. Elle est explicitement critique, pas de la société industrielle ou de la société de consommation. Et qu'est-ce qu'elle dit, la tradition? Oh, c'est pas très compliqué. Pas. C'est très simple. Et là encore, sa réponse n'est pas d'ignorance, mais de choix. Elle choisit de n'être pas pour ce développement. Et qu'est-ce pourquoi? Au nom de quoi est-ce qu'elle choisit d'être, si vous voulez, contre le dieu du monde moderne, contre le développement économique et social? Pourquoi est-ce qu'elle est contre? Ben, je dirais au moins, par exemple, deux raisons. Je pourrais vous donner deux raisons qui sont les raisons qui me semblent massives, principales. La première raison, c'est qu'en somme, la tradition vous dit, et quand je dis la tradition, en l'occurrence, je me permets d'insister. C'est l'une des idées, et ça c'est souvent inconnu d'ailleurs, on se préoccupe rarement de ce genre de thème. C'est l'une des idées les plus constamment répétées dans toute la philosophie païenne et chrétienne. Dans tous les systèmes philosophiques, vous trouvez exprimé de la manière la plus explicite non seulement la méfiance, mais le refus, pas, ce qu'on appellerait aujourd'hui le développement économique. La critique de l'activité économique comme telle, consciente, lucide et organisée. Et pourquoi? Ben, je dirais pour au moins deux raisons. La première, c'est que les classiques, la tradition, considère que plus on satisfait de besoins, et plus on en éprouve. Et plus on en éprouve, non seulement parce qu'il est dans la nature de l'homme d'être toujours, s'inventer indéfiniment des besoins, mais il y a plus grave. Pourquoi est-ce qu'on en éprouve de plus en plus? Eh bien parce que précisément, l'une des idées capitales du monde moderne, l'une des croyances fondamentales, une des convictions les mieux arrêtées du monde moderne, c'est que il n'est pas, vous avez probablement entendu comme moi développer l'argument, il n'est pas de besoin superflu. Tous les besoins sont également naturels. Dès que vous les ressentez, ils sont validés par le simple fait que vous les ressentez. Autrement dit, si vous voulez, ce qui caractérise le monde moderne, à mon avis, c'est la disparition de cette distinction fondamentale et tout à fait classique entre le nécessaire et le superflu. Le monde moderne est un monde dans lequel tout est nécessaire. Or, ce que dit la tradition, c'est beaucoup plus que de dire simplement que, comme disait Platon, les passions sont comme le tonneau des Danaïdes, pas sans cesse à remplir. Mais il dit plus simplement qu'à force de considérer comme légitimes toutes ses passions, eh bien l'homme risque de se perdre. L'homme finit par ne plus savoir ce qu'il est, il est constamment jeté en avant vers des satisfactions ultérieures, et il se perd lui-même. D'une certaine manière, j'aurais tendance, si pour aller vite, à vous dire que tout se passe comme si la tradition disait, au fond, le terme naturel de cette course après la satisfaction des besoins, eh bien c'est la mort. Et l'exemple type, le but, le terme ultime, n'est-ce pas, de cette course après les besoins ou cette course après les désirs, c'est l'usage de la drogue. La drogue, c'est le besoin superflu par excellence qui devient nécessaire, mais c'est un besoin qui jette l'homme en dehors de lui-même, au point précisément de lui faire désirer son propre anéantissement, au point de qu'il recherche dans la drogue, non plus tellement la satisfaction d'un besoin que l'annihilation de tout besoin, c'est-à-dire sa propre annihilation. Et deuxième raison, ça c'est une première raison, enfin que je vais très vite, j'espère que je suis très schématique, je pourrais développer tout ça. Deuxième raison, et là encore c'est constamment présent dans toute la tradition, et je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai dit l'un des dogmes les plus assis, les plus arrêtés de la modernité, c'est que quand on fait du commerce, on ne fait pas la guerre. Quand on se développe économiquement, on pense à autre chose qu'à faire des armements. Et quand on fait de l'économie, on s'enrichit, et quand on s'enrichit, on devient meilleur, etc., etc. Enfin, vous connaissez la thématique. Eh bien, la tradition dit c'est exactement l'inverse. C'est parfaitement faux. Si vous voulez, en un mot commençant et pour le dire, la tradition affirme l'économie, c'est la guerre. Le développement économique, c'est la guerre. Et je n'en donnerai qu'un seul exemple. Là encore, je ne vais pas me lancer parce que je pourrais parler des heures sur ce thème. Mais je n'en donnerai qu'un seul exemple. On vante les mérites de la concurrence. Et l'on a parfaitement raison. Car effectivement, la concurrence est un instrument d'efficacité économique, d'amélioration des produits mis sur le marché, etc., etc. Il ne s'agit pas de... Sur le plan strictement économique, la concurrence est un principe indiscutable, dont les effets bénéfiques sont indiscutables. Mais, ce qu'on ne voit pas, parce que les économistes s'en fichent, et puis la population aussi d'ailleurs dans son ensemble, mais elle souffre de cette maladie sans la comprendre, ce qu'on ne voit pas, mais c'est que la concurrence est une guerre, et que le terme de la concurrence, c'est l'annihilation du concurrent. La concurrence réussie pour un individu, c'est la disparition du concurrent, et c'est, comme on dit, ça... l'occupation du terrain qu'il occupait, et c'est l'accroissement, comme disent maintenant noblement les industriels, c'est l'accroissement des parts de marché. Les relations économiques sont des relations de guerre, tant sur le plan international que sur le plan national. Les sociétés économiques, et voilà encore une profonde sagesse de la tradition, les sociétés économiques sont des sociétés qui sont en réalité de faussement pacifiques. C'est ce que j'appelle personnellement, j'ai toujours défini, comme des sociétés qui sont simplement formellement non violentes. C'est-à-dire que, cela veut dire simplement que lorsqu'on pratique la concurrence économique, il est exclu en principe, il est interdit en principe, et d'ailleurs en principe, parce qu'en fait on y a recours de temps en temps, manœuvre noire, bon, mais il est en principe exclu d'aller trouver son concurrent avec un revolver à la main. Bon, il est en principe exclu d'avoir recours à l'élimination directe et physique des concurrents ou des partenaires économiques. Mais à part sous la réserve de cette seule restriction, et encore une fois qui ne vaut même pas toujours, en réalité, le dogme moderne est parfaitement fallacieux et la tradition se borne à rappeler une vérité d'évidence. Troisième et dernier exemple. Bon, alors là, je ne sais même pas si il est tard. Je pourrais demander, là, il y a un troisième exemple, là. Les modernes se vantent d'avoir découvert le régime politique parfait, la société politique parfaite. Ils se vantent d'avoir découvert la démocratie. Incontestablement, la démocratie, c'est vraiment, en effet, le régime parfait. C'est le régime parfait, et d'ailleurs, le premier à l'avoir dit, c'est Jean-Jacques Rousseau, vous le savez tous, pas l'auteur du contrat social, un des pères de la démocratie. Et vous savez ce que disait Jean-Jacques Rousseau? Il dit, oh là, la démocratie, c'est un système absolument parfait. L'ennui, c'est qu'il demande un peuple de Dieu. Parce que si les hommes ne se comportent pas comme des dieux, eh bien la démocratie est un régime de lutte de chacun contre tous. La démocratie, c'est un régime, et je vous le dis en deux mots, je vous l'explique en deux mots, ce sont des choses extrêmement banales, qui devraient être extraordinairement banales. La démocratie, c'est un régime de souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple, c'est la souveraineté de chaque citoyen. La démocratie, c'est un régime dans lequel chaque citoyen est souverain. Ben comment voulez-vous imaginer une seconde qui puisse régner la paix dans une société où, dont tous les individus, dont tous les membres, se considèrent chacun comme des souverains? Il est bien évident que tous ne le seront pas en même temps et qu'ils se feront des concessions. Seulement, il est bien évident aussi que toutes les concessions qu'ils se feront réciproquement, ils se les feront évidemment à contre-cœur. Et qui n'ont aucun but dans l'existence, c'est précisément d'acquérir les droits auxquels, puisqu'ils sont souverains, ils ont par nature, légitimement, droit. Ils n'auront tous à cœur, autrement dit, ils se limiteront les uns les autres, n'est-ce pas, et éviteront peut-être certains gestes fâcheux, parce qu'ils savent que ça risque éventuellement de leur retomber sur le nez. Mais dans le fond, la démocratie est un régime où chacun ne pense qu'à soi, et où chacun ne cherche que son intérêt, au détriment des autres, et de la manière la plus légitime et la plus naturelle, puisque précisément, chacun est déclaré par définition au principe du système avoir un droit souverain à tout ce qu'il peut désirer. Je vous signale une formule remarquable de Jean-Jacques Rousseau, qui dit tout en très peu de mots. Chaque homme, disait Rousseau, et c'est le père fondateur de la démocratie. Chaque homme a un droit naturel à tout ce à quoi ses forces lui permettent de prétendre. C'est la critique la plus radicale, en quelques mots, que l'on puisse faire du système démocratique. Bon, alors c'est ça que dit qu'est-ce que dit la tradition? Ben ça, tout simplement. Elle dit, oh mais, vive la démocratie! Il ne s'agit pas une seconde de critiquer le système. Bon, et après tout, comme nous le disions l'autre jour, je crois, dans les communautés monastiques, règne une certaine forme de démocratie. Oui, seulement précisément, dans les communautés monastiques. Est-ce que les citoyens sont comme des moines dans les sociétés industrielles modernes? Est-ce qu'ils ont la même vertu? Ils sont capables de la même austérité? Est-ce qu'ils sont capables du même esprit que les moines? La question reste entièrement à démontrer, naturellement. En attendant, la tradition se borne à dire, il y a peu de chance pour que les millions d'individus qui constituent la société moderne soient l'équivalent de ces moines, de ces petites communautés, et qu'ils soient capables de vivre en démocratie. La démocratie, c'est parfait. C'est le régime idéal, il n'y a rien à dire. Malheureusement, il ne fonctionne pas. Une fois de plus, qu'est-ce que dit la tradition? Le bon sens. C'est une philosophie de sagesse. Bon, alors il me reste à conclure, en 5 minutes, par le plus important, ce sur quoi j'aurais dû passer le plus de temps. Bon, vous aurez compris, je veux en venir. Alors, quel est l'esprit de la tradition? En quoi est-ce que la tradition se distingue de la modernité? Si on veut rassembler ça et en faire essayer de montrer le cœur du problème. Ben si vous reprenez les exemples que j'ai considérés, prenez la critique de la démocratie, prenez la critique des sociétés économiques, industrielles, etc., de consommation, prenez la critique de la science et quelle est la critique au fond, chaque fois, la même qui revient? Quel est le principe profond sous-jacent à toutes ces critiques? C'est toujours le même, il est élémentaire. lorsque l'homme se dote d'une science, enfin, qui dépasse peut-être ses capacités. Lorsque l'homme se dote d'une capacité de production, pas, ou d'une organisation économique productive, pas, qui le conduit à s'annihiler lui-même ou à entrer en guerre avec ses semblables. Quand l'homme se dote d'un type de société, pas, qui le contraint mécaniquement, pas, à entrer en guerre avec ses semblables, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dépasse tout simplement ce qui est permis à l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'essence de la tradition? Qu'est-ce que c'est que l'intuition fondamentale de la tradition? Elle est très simple. Je dirais que l'opposition de la tradition et de la modernité se résume très simplement de la manière suivante. La modernité, c'est l'affirmation, et je vous renvoie là à des termes qui sont particulièrement remarquables, parce que là encore, ils sont écrits, ils sont pensés, ils sont trouvés par Rousseau, par Jean-Jacques Rousseau, le fondateur de la démocratie et l'un des modernes par excellence. Les modernes croient, je prends les termes de Rousseau, que l'homme est un tout parfait. C'est Rousseau qui l'a dit. Un tout parfait. Chaque homme est un petit univers fermé sur soi. Et comme tous les univers fermés sur soi, il ne demande rien à personne. Il est content de ce qu'il est. Il est parfait. L'intuition centrale de la modernité, c'est la perfection de l'homme. L'intuition centrale de la modernité est que l'homme est capable de se prendre, non seulement de se prendre, ça c'est très facile, mais c'est qu'il est même capable d'être un dieu. Et qu'est-ce que c'est que l'intuition de la tradition? Ben, c'est que l'homme n'est pas parfait. C'est l'imperfection, c'est la fragilité, c'est la faiblesse fondamentale de l'homme, où ça tient en un mot d'ailleurs, et ça, il faut reconnaître que les chrétiens l'ont dit mieux que les païens. C'est là où la philosophie chrétienne manifeste une supériorité théorique, même en tant que philosophie, pas seulement en tant que théologie, sur la philosophie païenne. Les chrétiens l'ont mieux dit que les autres, parce que précisément, s'il y a une chose que les Grecs ne pouvaient, enfin, s'il y a des choses que la tradition païenne ne pouvait pas expliquer, d'une certaine manière, c'était l'existence du mal dans le monde. Bon, pas le temps d'insister sur ce thème important, mais enfin, serait-il que c'est un grand problème. Tandis que les chrétiens le résolvent, bon, il y a du mal dans l'homme parce que l'homme est libre. Autrement dit, bon, l'homme est imparfait parce qu'il est... Il est parfait parce qu'il est libre, mais il est imparfait parce qu'il est libre. Autrement dit, l'intuition centrale de la tradition, représenté tout particulièrement par le monde chrétien précisément, c'est tout simplement que l'homme est une créature pécheresse. Alors il me resterait, une idée capitale, encore, une dernière si vous voulez, je pense que ça vous intéresse. Les modernes vous diront à ce moment-là, autrement dit, il y a une opposition fondamentale, l'homme qui a péché, l'homme qui est parfait. Et je vous ferai remarquer que ce n'est pas un hasard, j'avais l'occasion de le dire tout à l'heure, ça me paraît absolument décisif. Ce n'est pas un hasard si l'Église catholique moderne ou moderniste, comme on voudra, a pratiquement exclu de son vocabulaire le mot de péché. Elle est moderne parce qu'elle ne pense plus le péché. Elle est moderne parce qu'elle est devenue incapable de penser l'imperfection de l'homme. L'erreur à la fois philosophique et théologique de l'Église moderniste, c'est son incapacité à penser que justement l'homme est un être à faire, qui n'est pas immédiatement donné dans sa perfection. Alors, je conclurai en disant, bon, cela dit, les modernes vous diront, mais c'est bien ce que nous disons, nous aussi. Hein? Nous avons écrit depuis le XVIIIe siècle un livre qui s'appelle « Du progrès indéfini de l'esprit humain ». Nous aussi, vous aussi faites pour le progrès. Vous venez de le dire. L'homme est imparfait. Bon, ben, précisément, sa vocation propre, c'est de devenir parfait. On est bien d'accord, mais on ne dit rien d'autre. On ne dit rien d'autre. Oui, seulement, vous comprenez. C'est jouer sur les mots. Et c'est comme pour tout à l'heure, la raison, concernant la notion de raison, n'est-ce pas? Le progrès, en l'occurrence, si tant est qu'on puisse appliquer la notion à la tradition, admettons, n'est-ce pas, et bien en tous les cas, même si on l'applique, il est évident que le progrès, le mot, est pris dans deux sens, complètement, radicalement, contraires. Pourquoi? Tout simplement parce que l'idée essentielle, enfin, et ça, je pense que s'il y a parmi vous, les catholiques doivent le comprendre mieux que les autres, et tout de suite, très aisément, s'il y a, si vous voulez, une contrainte que sa propre situation impose à l'homme qui cherche à marcher dans la voie du progrès, du point de vue traditionnel, s'il y a une contrainte, enfin, s'il y a une difficulté, s'il y a un obstacle majeur qui se lève devant lui sur cette voie, c'est le fait précisément de son imperfection. C'est précisément parce qu'il est imparfait qu'il doit devenir meilleur, mais c'est parce qu'il est imparfait qu'à l'aide de ses seules forces, il a peu de chances d'y arriver tout seul. Si vous voulez, l'idée de péché est indissociable dans la tradition de l'idée qu'il existe et il doit de toute nécessité exister une aide surnaturelle qui permette à l'homme de devenir meilleur. Qu'il doit exister une force qui n'est pas humaine par définition, pas pour que l'homme devienne meilleur. Si vous voulez, en un mot commençant, pas, à tout péché, il faut, pour sa propre rédemption, la grâce. Eh bien, s'il y a une idée qui est étrangère à la modernité, c'est bien celle-là. Qu'est-ce qu'affirme la modernité? Qu'il y a progrès, certes, mais comment se fait ce progrès? Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, par la science. Par la science, l'homme devient meilleur. Ben, par la science, il devient plus riche, il devient tout ce qu'on voudra. Autrement dit, ce qui caractérise le progrès des modernes, c'est qu'il s'agit d'un progrès que l'humanité est capable d'opérer par ses seules forces. Ce qui caractérise la modernité, c'est l'athéisme, représenté par exemple par cette idée que précisément l'homme est capable, à lui seul, par lui seul, l'humanité est capable de faire son salut. La modernité, c'est l'affirmation que l'homme, entendez l'humanité, est à soi-même son propre Dieu. Et ce n'est pas un hasard si, pour la plupart, d'une manière ou d'une autre, des philosophes modernes, le nouveau Dieu, c'est effectivement l'humanité. J'avais parlé tout à l'heure de ce philosophe français qui s'appelle Auguste Comte, le fondateur du positivisme. Eh bien, le fondateur du positivisme avait conclu son œuvre, ou avait tenté vers la fin de sa vie, de jeter les bases d'un nouveau christianisme. C'est les mots sont de lui. Il s'agit d'une religion qui va, au fond, incarner la vérité de ce que n'a pas pu être le christianisme. Parce que le christianisme ne s'est pas compris lui-même. Le christianisme a encore présupposé encore l'existence d'un Dieu transcendant, enfin d'un être mystérieux, peu scientifique, en réalité. Le véritable Dieu de cette nouvelle religion, de ce nouveau christianisme, c'est l'humanité. Auguste Comte voulait être le grand prêtre du culte de l'humanité. Les mots sont de lui. Il était le grand prêtre et il voulait fonder le culte de l'humanité. Ça, c'est d'une certaine manière l'essence de la modernité. Eh bien, la tradition se borne à dire l'homme n'est pas Dieu. Et c'est pas parce qu'on l'envisage dans sa collectivité, c'est pas parce qu'on l'envisage en totalité sous forme d'humanité, qu'il en devient plus Dieu par la même. Et je conclurai, j'avais encore une idée, mais tant pis, il est trop tard, je ne veux pas vous lasser, je conclue en vous rappelant que en 1864, le pape Pie IX, qui est à mes yeux le dernier, enfin à ma connaissance, le dernier pape à l'avoir dit avec une pareille, si vous voulez, netteté ou brutalité, comme vous voudrez, le pape Pie IX dit que entre la tradition et la modernité, il n'y a aucun pont possible, aucune réconciliation possible. La seule manière de sortir de la modernité, c'est la tradition. Le seul remède à la modernité, c'est la tradition, c'est-à-dire c'est l'abandon de la modernité.